Je vais peut-être un peu. Ah, c'est bon. Merci.
Ah, c'est bien, on voit son visage.
Bah oui, c'est vrai qu'avec les masques, c'est pas évident. Bon, bonjour à tous, à ceux que j'ai pas salué en arrivant. Donc, un grand merci de votre accueil. Ça fait 2 ans que Daniel et Brigitte ils sont chez nous à l'église et on a beaucoup entendu parler de vous parce qu'ils nous parlent beaucoup de vous et donc c'est un plaisir d'être avec vous et un privilège d'être avec vous ce matin. Et je remercie aussi Dieu pour l'introduction qui a été faite parce que même si je vais peut-être pas utiliser le mot cœur ou pas beaucoup, c'est dans la même idée. Qui c'est qui dirige mon cœur? Et c'est un message que j'ai déjà partagé à Trenheim, donc dans mon église. Et c'est un texte qui m'avait frappé il y a quelques jours quand j'ai lu ce texte. Et j'aimerais bien qu'on lise, qu'on commence à en lire. Donc dans Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome, chapitre 31, et on va lire les versets 1 à 8. Donc c'est Moïse qui parle à la fin de sa vie et qui nous dit ceci. Donc Deutéronome 31. Les versets 1 à 8. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. » Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraye point. » Jusqu'ici ce texte et je veux juste encore prier. Oui, Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, parce que tu es au milieu de nous, tu l'as promis et tu le feras. Et comme tu as été avec le peuple, tu ne l'as pas abandonné, tu seras aussi avec nous. Tu veux maintenant faire silence dans nos cœurs pour que nous puissions apprendre de toi. Tu veux m'éclairer par ton esprit pour que je puisse avoir les bonnes paroles et que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit toi qui puisse nous parler, nous guider et nous conduire. Je veux vraiment te louer et te remercier, au nom de Jésus. Amen. Donc, on est à la fin de la vie de Moïse. Pendant 40 ans, Moïse, ce serviteur de Dieu, a conduit le peuple d'Israël. D'abord pour la sortie d'Égypte, puis dans le désert. Pendant ces 40 ans, l'Éternel a gardé le peuple, il a nourri le peuple, l'Éternel a parlé au peuple. Dieu a utilisé de façon puissante ce serviteur Moïse pour enseigner, pour conduire et pour guider, et il a montré sa puissance. Et donc Moïse a maintenant 120 ans, il arrive à la fin de sa vie, il sait qu'il va mourir, le verset 2 nous dit clairement que Dieu lui a dit, c'est pour toi, c'est la fin de la route, tu vas me rejoindre et tu ne vas pas rentrer dans ce pays. Mais avant de mourir, Moïse laisse au peuple des derniers conseils, et ça en fait partie, les derniers conseils que Moïse donne à Josué et à tout le peuple. Et dans ces quelques versets, on a 3 fois la même phrase. Alors, il y a plusieurs mots qui sont dits plusieurs fois, et c'est souvent important quand il y a des répétitions. Au verset 3, il est dit, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ses nations, etc. » Verset 6, « Fortifie-toi, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Et verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. » Donc c'est ces mots, c'est ce bout de phrase qui m'avait interpellé. « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. » On a 3 fois cette phrase. Verset 3, verset 6, verset 8. Et c'est surtout, quand j'avais lu ce texte il y a quelques jours, c'est ces mots « lui-même » qui m'ont interpellé. et je pense qu'ils sont importants. Ils mettent une vérité en avant, Dieu lui-même marchera avec vous. À la limite, ces mots, on peut les enlever dans la phrase. On pourrait dire « l'Éternel, ton Dieu, marche devant toi ». C'est aussi français. Mais l'auteur a rajouté « l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi ». Et c'est ce qui m'a interpellé. Et je pense qu'on peut se poser la question, chacun peut se poser la question à lui-même, est-ce qu'on est conscient de cela ? Est-ce qu'on est conscient que Dieu lui-même marche avec nous ? Il ne nous enverra pas seulement une force, il ne nous enverra pas seulement un serviteur, il n'enverra pas un ange, mais il marche lui-même avec nous. Et c'est ce qui m'a interpellé dans notre texte. Est-ce que Dieu marche avec nous ? Il ne faut pas seulement marcher avec un bon serviteur. Je dirais même qu'il ne faut pas seulement marcher avec la Bible, il faut marcher avec Dieu. Et quand j'observe le monde évangélique un petit peu, je constate que trop souvent, on marche avec la Bible, ou plutôt avec notre compréhension biblique, ou avec notre interprétation du texte biblique. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Il est dit ici que l'Éternel lui-même marchera avec nous, avec toi. Moïse n'a pas dit que c'est les commandements de Dieu qui marcheront devant toi. Mais c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on est conscient de cela ? Il n'est pas marqué « Josué marchera devant toi ». Moïse n'a pas dit « Josué me remplacera ». Non, il a dit « Dieu lui-même sera le guide, sera le chef ». Et malheureusement, souvent, on s'attache à des hommes. Et si on reprend l'histoire d'Israël, on connaît l'histoire et on sait tout ce que ce peuple a vu. En Égypte, ils ont vu des choses glorieuses. Durant ces 40 ans dans le désert, ils ont vu des choses glorieuses. Ils ont été nourris dans un désert. Les habits ne se sont pas cassés, les chaussures ne se sont pas usées. Ils ont entendu Dieu au mont Sinaï. Et pourtant, dans Exode chapitre 32, ce texte très connu qu'on connaît, mais on peut le lire, Exode chapitre 32, il est dit, c'est au début de leur cycle dans le désert, après que ils ont vu la gloire de Dieu traverser la mer Rouge, etc. Il est dit, Exode 32, je vais lire les versets 1 à 8. Donc Exode chapitre 32, versets 1 à 8. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les remit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain il aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » On connaît cette histoire, mais ce qui m'a frappé, c'est le premier verset, il est dit, où le peuple dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Mais qui les a fait sortir du pays d'Égypte ? Est-ce que c'est Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte ? Ce n'est pas Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et pourtant, ce texte sous-entend que les enfants d'Israël disent « Car ce Moïse, nous ne savons où il est venu. » Alors, on peut se poser la question à nous-mêmes. Qui nous a sauvés ? Qui nous a délivrés ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est peut-être un frère ? Malheureusement, souvent, on s'attache aux hommes. Je pense que si on avait posé la question aux enfants d'Israël, intellectuellement, ils auraient sûrement répondu « Ah, c'est Dieu qui nous a délivrés. » Mais ici, dans la difficulté, ce Moïse, nous ne savons, cet homme qui nous a délivrés, nous ne savons ce que, où il est allé. C'est une réponse théorique, mais qui les a fait sortir ? Qui nous a délivrés ? Sur qui je m'appuie ? Qui remplit mon cœur, pour reprendre les mots de l'introduction ? Les enfants d'Israël se sont attachés à Moïse. Et à nous d'en tirer des leçons parce que nous ne sommes pas différents. Malheureusement, combien souvent l'histoire se répète. Combien vite on s'attache à des hommes. On se construit sur des hommes ou sur des théologies, alors on se dit Ménonite, Baptiste, enfin, etc. Mais sur qui on construit? Qui marchera devant nous? Il y a ce verset dans un psaume 118, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup dans Jérémie, vous pouvez ouvrir la Bible si vous voulez, Jérémie 17. Jérémie 17, un verset très connu. Certains disent que c'est le verset du paysagiste ou de l'arboriculteur. C'est mon métier, hein. Je suis producteur de fruits, je soigne beaucoup d'arbres. Et là, il prend cette image d'un arbre qui est planté près des courants d'eau. On peut lire Jérémie 17, versets 5 à 8. Jérémie 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alors ce texte met en opposition, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme » et verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et il prend cette image de cet arbre qui n'aura pas de problème parce qu'il est près d'une source d'eau. Ces textes, on les connaît souvent dans le milieu évangélique, on connaît. Mais est-ce que réellement on les vit? Est-ce que réellement on peut se poser la question « Qui marche devant moi ?» Et cette question, je dois premièrement me la poser à moi. Qui réellement marche devant moi? Pour aller un peu plus loin, juste avant son arrestation, Jésus, alors qu'il est sur la terre, il sait qu'il va être mis à mort. Il va à ses disciples leur citer une citation de Zacharie. Et je vous cite ce qu'il dit, c'est dans Matthieu. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger » et les brebis du troupeau seront dispersées. » Jésus cite une prophétie de Zacharie et il dit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » C'est ce qui est arrivé. Jésus a été frappé, il a été arrêté, et les disciples ont été perdus et dispersés. Ils avaient perdu leur repère, ils avaient perdu leur boussole, parce qu'ils s'étaient attachés à la personne de Jésus-Christ. Mais ils ne s'étaient pas attachés à Dieu lui-même. Et je ne veux pas les critiquer parce que je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Mais la question, à qui on s'attache? Qui marche devant nous? Quand le berger est enlevé, les brebis sont dispersées. Et c'est malheureusement encore souvent le cas dans les églises. Hein, quand un responsable est frappé ou dévie, toute l'église perd pied. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on s'attache à un homme, pas qu'on s'attache à un groupe, mais qu'on s'attache à Dieu lui-même. Et on peut analyser nos vies. Hein. Que se passerait-il dans notre église, dans nos vies, si on nous enlevait notre pasteur, notre père spirituel ou la personne sur qui on a confiance? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout s'effondre? Mais ce n'est pas normal, parce qu'on doit s'appuyer sur Dieu. Qu'est-il arrivé au peuple quand Moïse a disparu pendant 40 jours? Ils se sont détournés. Selon les réponses que l'on donne, selon nos attitudes, on peut en déduire qui marche devant nous. Est-ce que Dieu marche devant nous ou est-ce que des hommes ou des idées marchent devant nous? Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. » Jésus nous a promis dans Matthieu 28, 20, ce verset très connu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avant de partir, il a dit, « Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes ces choses. » Dieu, par son esprit, marche lui-même avec nous. Une très grande promesse, et je peux que dire merci Seigneur. Dans la même idée, j'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Jean cette expérience qu'a fait Jésus lui-même. Jean 16, c'est aussi quelques moments avant d'être arrêté. Il dira ceci aux disciples dans Jean 16, le verset 32, juste un verset. Donc Jean 16, verset 32, où Jésus dit à ses disciples, « Voici l'heure vient, » donc Jean 16, 32, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Jésus dit à ses disciples, « Vous allez tous m'abandonner. » Et c'est vrai, ça va se passer. Mais il leur dit, « Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » C'est formidable cette expérience. C'est formidable ce que vit Jésus. Il dit, « Je ne suis pas seul. » Lui et son Père ne forment qu'un. Et quelques versets plus loin, juste si on tourne la page, dans le chapitre 17, verset 20, donc c'est vraiment la suite, hein, c'est quelques minutes après, il leur dit aux disciples, donc Jean 17, verset 20, il dit ceci, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ici, Jésus est en train de dire, il est en train de prier son Père afin que tous soient un comme toi et moi. La même chose que ce qui arrivait à Jésus. Dieu nous promet la même chose. Comme Jésus a pu dire « Je ne suis pas seul », nous aussi, nous pouvons dire, nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu marche avec nous. Dieu veut nous offrir cette même unité avec son Dieu. Il veut marcher avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Quelle immense promesse et quelle immense grâce. On ne marche pas avec un groupe ou avec un homme ou selon une religion, mais on marche unis à Dieu, le Père, et c'est formidable. C'est formidable et béni soit Dieu. J'aimerais bien encore lire un texte dans Actes. Dans Actes 5, les religieux ont arrêté les apôtres. Ils veulent les faire mourir, mais il y a un de ces religieux, il va dire quelque chose, une réflexion très sage dans Actes 5, les versets 35 à 39. C'est un pharisien nommé Gamaliel qui va dire, verset 35, donc dans Actes 5. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Thédas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si elle vient de Dieu, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Si Dieu marche avec nous, on n'a rien à craindre. Parce que le monde, les hommes, les dominations ne pourront les détruire. D'où viennent mes œuvres? Qui dirige ma vie? Dieu doit être notre maître, notre seul guide. Et si c'est lui qui marche devant nous, alors rien ne pourrait nous arrêter. C'est lui qui nous montre la voie. C'est lui qui trace le chemin. Il est devant. Mais on peut dire, si lui est devant, quel est mon rôle? Quel est mon rôle en tant qu'ami, en tant que voisin, aux gens qui nous entourent, face à nos frères et sœurs, en tant que parents aussi? J'ai 4 enfants, donc quel est mon rôle? Et donc je vais juste tourner les pages dans Jean, le dernier chapitre de Jean, où Dieu fait 3 fois la même réponse à Pierre. C'est en parallèle avec le fait qu'il est renié 3 fois. Et 3 fois, il lui donne le même ordre à Pierre. Donc on peut lire versets 15 à 17. Donc Jean 21, verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix
mes brebis. » Ici, trois fois, Jésus lui fait le même ordre. Il dit à Pierre, « Paie mes brebis.
Occupe-toi de mes brebis. »
Comme un berger s'occupe de ses agneaux, nous devons nous occuper des frères et sœurs, des gens qui sont autour de nous. Nous devons les guider, les enseigner.
Dans un autre passage, Jésus s'adresse aussi à Pierre et lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. »
C'est un autre mot pour dire sensiblement la même chose, affermis ou encourage les frères.
Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous sommes là pour conseiller, pour encourager, pour soutenir, mais c'est Dieu qui marche devant. C'est lui qui conduit. Nous sommes seulement les porte-paroles. Et on doit amener les gens à Christ, encourager nos frères et sœurs. Par nos actes et nos paroles, on doit amener les gens à s'attacher à Christ, à glorifier Christ. On doit encourager les gens à venir à l'église et avoir une relation personnelle avec Dieu. Malheureusement, ce rôle de conseil et d'encouragement, il est parfois dur à tenir. Si j'analyse nos vies ou le monde évangélique ou soi-disant chrétien, combien souvent, au lieu d'encourager, on est plutôt dans la critique et on détruit. Avec ce genre d'attitude, est-ce que Dieu marche devant nous ? On peut se poser la question. Parce que Dieu ne force pas. Le Saint-Esprit ne force pas, ne s'impose pas. Il nous donne simplement des conseils et des recommandations. Jacques, le frère de Jésus, nous parle de la langue, des dangers qu'on peut faire avec la langue et du pouvoir et des dégâts qu'on peut faire avec la langue. Et j'aimerais bien qu'on lise ce texte très connu dans Jacques. Jacques, chapitre 3. Je vais lire les versets 2 à 12. De ce texte de Jacques. Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, c'est un texte très riche. Mais j'aimerais juste relever quelques points, c'est les versets 9 à 10, où Jacques dit, par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, verset 9, il commande, par elle nous bénissons. Dans ce cas, je peux dire, Dieu marche devant nous. Mais il continue, il dit, par elle, par la même langue, nous maudissons. Et là, ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, qui dirige ma vie? Parce qu'au verset 6, il est très fort avec la langue. Hein, il dit, c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Fin du verset 8, il dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Ce sont des mots très durs. Mais avec ces attitudes, est-ce que Dieu marche devant nous? Jacques conclut, verset 10, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si Dieu marche avec nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est des exemples pour nous aider à voir qui marche devant nous. En tout cas, Dieu veut marcher devant nous, avec nous. Si je reviens dans Deutéronome, le texte que j'ai lu au début, le peuple a eu des grandes difficultés. Ils ont désobéi, ils ont fait de nombreuses erreurs. Ils viennent de faire 38 ans d'errance dans le désert. Pourtant, est-ce que Moïse leur fait des reproches?
il ne leur fait pas de reproche. Mais il les encourage. Verset 3, il leur dit, « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître. » Le verset 6, « Fortifie-toi et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Et même le verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse fait que des encouragements. Il dit, il répète au peuple les promesses de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Fortifie-toi, prends courage. À nous de prendre exemple et d'être des hommes et des femmes qui encouragent et qui affermissent les autres. Moïse avait cette capacité parce qu'il avait totale confiance en Dieu. Il sait que Dieu gardera Josué et le peuple. Moïse avait la certitude que Dieu marchera lui-même devant son peuple. Et pour finir, j'aimerais prendre un dernier passage. C'est un passage de la vie du roi Ézéchias, un des rois de Juda. C'est une période où le roi est acculé. L'armée du roi Assyrie est aux portes de Jérusalem. Et le chef de cette armée va s'adresser au roi Ézéchias. On peut prendre dans deux rois. Donc le peuple, Ézéchias, est dans une difficulté. La grande armée du roi Assyrie est devant lui. Et humainement, il a peu de chance. Mais le chef de cette armée, il va lui poser une question. Donc dans 2 Rois 18, les versets 19 à 20. Rabshaké, c'est le chef de cette armée. Il va poser une question. Il s'adresse à tous les soldats et il leur dit, donc 2 Rois 18, verset 19, Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi des Syries, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ?» Ici, ce chef d'armée pose une question. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? En qui donc as-tu placé ta confiance? Je pense que pour nous aussi, on peut se poser cette question. En qui avons-nous placé notre confiance? Sur qui on s'appuie? Est-ce que c'est sur des paroles d'homme, sur les actions d'un homme, ou c'est sur Dieu? Sur qui repose ta confiance? Sur ta force, ta sagesse, ton savoir, ton compte en banque, ou je ne sais pas, on pourrait encore citer d'autres choses. Sur qui tu t'appuies? Dieu marchera lui-même devant toi. Voilà, que Dieu vous donne grâce de mettre ces choses en pratique et de les vivre. Amen.